Et ce matin, nous sommes avec Philippe Blanchet, professeur à l'université de Rennes 2. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin alors que vous allez passer quelques jours sur le territoire et que vous donnerez d'ailleurs une conférence publique demain à 17h30 à l'UNC, notamment sur la discrimination linguistique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser sur cette question ? C'est votre histoire familiale ?
Alors oui, mon parcours familial peut avoir joué parce que je viens d'une région, la Provence, où on a une langue régionale, où quand on a appris le français dans la génération de mes grands-parents, on l'a coloré de notre langue et du coup on a développé ce fameux accent méridional bien connu qui fait l'objet à la fois d'une certaine appréciation mais aussi de certains stéréotypes négatifs. Et effectivement, toute ma carrière a été consacrée à étudier le contact entre les langues minoritaires et le français, l'émergence de variétés locales de français et la façon dont les gens qui parlent ces langues-là ou ces variétés-là du français font plus ou moins l'objet, mais parfois fortement, de discriminations que j'ai proposé, comme vous le savez, d'appeler des discriminations glottophobes.
Sur ce concept de glottophobie, justement, pour vous, la discrimination sur l'accent ou sur la langue parlée est aussi violente que les autres types de discrimination ? Il n'y a pas de hiérarchie, en fait ?
Il n'y a pas de hiérarchie entre les discriminations parce que je ne vois pas sur quels critères rationnels, objectifs, on pourrait considérer qu'il est plus grave de refuser une personne d'entrer dans cette pièce parce qu'elle est sur un fauteuil roulant ou de le lui refuser à cause de la couleur de sa peau ou de la façon dont elle parle français. Le résultat est le même. Donc la discrimination est aussi grave. Effectivement, c'est violent, d'autant que les langues et nos façons de parler sont des éléments qui font partie de nos personnalités. Donc nous refuser le droit de nous exprimer tel que nous sommes, c'est nous refuser d'être qui nous sommes. Et ça, c'est évidemment particulièrement violent.
Et aujourd'hui, c'est rentré dans le droit comme une discrimination, comme toutes les autres discriminations.
Alors, c'est dans le droit international depuis très longtemps. Ça fait partie des motifs de discrimination qui sont strictement interdits et qui sont protégés par tous les grands textes de protection des droits fondamentaux, y compris ceux que la France a ratifiés, etc., ceux du Conseil de l'Europe. C'est entré dans le Code pénal français en 2016, l'interdiction donc de traiter une personne défavorablement au prétexte du fait qu'elle puisse utiliser une autre langue que le français. Ce motif ne dit pas clairement si ça couvre les façons de parler français, par exemple les accents qu'on a en français ou pas. Il y a un député qui a essayé d'ajouter cette mention précise de l'accent en 2020, mais il est arrivé un peu trop tard et ça n'a pas été jusqu'au bout de la législature. Donc pour l'instant, c'est tombé à l'eau. Mais il semble qu'il y ait quand même une sorte de consensus qui se soit développé ces dernières années pour trouver que c'est vraiment pas normal, si ça n'a pas d'impact direct, de refuser à une personne un logement, un emploi, enfin quoi que ce soit, au prétexte, pour le dire très clairement, de la façon dont elle prononce les E, les O ou les R.
Il y a eu une volonté en France, en règle générale, et on l'a vu dans plusieurs régions, d'uniformiser la langue, sûrement pour un besoin d'unité de la nation. Mais votre point de vue, c'est que ce n'est pas le seul choix politique qui existe, et même, selon vous, ce n'est pas le meilleur.
Alors, c'est même un choix rarissime. La plupart des États du monde ont fait le choix d'assumer leur plurilinguisme et de reconnaître les différentes langues, d'organiser, bien sûr, ça s'organise, hein, d'organiser les usages des différentes langues dans tel ou tel secteur pour telle ou telle activité. À l'inverse, la France a fait le choix au moment où elle a été, en gros, constituée dans son existence d'aujourd'hui à la Révolution, au contraire, d'essayer d'éradiquer ces différences et d'imposer une seule langue. Et en plus d'imposer une seule langue, le français parlait d'une seule façon, dont on sait bien qu'elle est celle qui est venue de la cour de France d'abord, puis de la grande bourgeoisie parisienne après. Et effectivement, c'est un choix qui pose des problèmes parce que ça exclut de fait les gens qui parlent d'autres langues, ça les traite à inégalité, ou les gens qui parlent français autrement et qui vont être mis en situation de compétition défavorable avec un motif qui est parfaitement arbitraire.
Alors aujourd'hui, on fait peut-être un peu machine arrière, hein, avec des accents dans les médias, le parler jeune qu'on va retrouver dans la musique ou dans les films. Est-ce que vous sentez que les accents retrouvent une place importante aujourd'hui ?
Alors je pense qu'il y a un changement qui est en cours. Je ne sais pas s'il a lieu ici, mais il a lieu en tout cas en France européenne, où il y a une meilleure acceptation des façons différentes, des accents locaux, sociaux, de parler le français. Effectivement, les médias s'y ouvrent. Les écoles de journalisme désormais commencent à les accepter, ce qui est nouveau. Ça produira des effets à terme dans les médias. Et je pense qu'on est arrivé à un moment depuis quelques années où les gens ne supportaient plus finalement qu'on les traite mal à cause de ça. Et il y a un retour de l'opinion publique. Il y a eu plusieurs épisodes marquants de ce point de vue-là. Donc il y a quelque chose qui change en bien Dans ce sens, là où on est encore en grande difficulté, c'est pour les gens qui parlent d'autres langues, notamment les langues dites régionales, qui correspondraient ici, par exemple, aux langues kanak, où là, le droit de les parler et la place qu'on leur fait dans la société reste quand même très marginalisée.
C'est votre premier séjour en Nouvelle-Calédonie. Pour autant, vous avez déjà vu quelques éléments du langage calédonien et des différentes langues vernaculaires. Qu'est-ce que vous avez constaté? Quel est le premier constat que vous faites?
La première chose qui m'a frappé, c'est que par rapport à d'autres territoires d'outre-mer que je connais bien, je me suis beaucoup intéressé à toutes les situations francophones, je m'attendais à une place plus forte des langues locales, on va les appeler comme ça, c'est pas du tout péjoratif, comme par exemple la place du créole à La Réunion que je connais bien, et je me rends compte que finalement le français occupe beaucoup plus d'espace ici, et qu'il y a même eu ici, comme nous avons connu en France européenne, une interruption de la transmission de certaines de ces langues, et ça je le découvre, et donc il y a cette spécificité qui me frappe et à laquelle je ne m'attendais pas.
Est-ce que ça vient du fait aussi qu'il y ait énormément de langues vernaculaires et que le français a peut-être fait le lien entre les différentes aires coutumières et les différents parlers et qu'il y avait besoin d'une langue pour que tout le monde se comprenne ?
Je pense pas, pour deux raisons. La première, c'est que les humains sont spontanément plurilingues et donc peuvent parler les langues de leurs voisins. Ils n'ont pas besoin d'avoir une langue en commun. On apprend les langues les uns des autres. Et d'autre part, la situation est la même dans d'autres pays où le phénomène ne se produit pas. Je pense pas que c'est parce que le français a potentiellement un rôle de langue véhiculaire qu'il est choisi. Je pense que c'est parce qu'il a fait l'objet d'une forme d'imposition, on va dire, hein, et accompagné d'une dévalorisation avec des discours très péjoratifs sur les autres langues dont on ne mesurait pas la richesse, y compris culturelle, et aujourd'hui on commence à mieux le reconnaître, qu'on a conduit les gens à les abandonner. C'est un peu ce qui s'est passé aussi en France hexagonale, comme on dit parfois.
Il y a finalement des parallèles que vous pouvez faire avec vos objets d'études métropolitains, finalement ?
Absolument, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comparer, et pas seulement dans les zones françaises, on compare dans d'autres pays francophones, les points communs, c'est-à-dire là où on voit les mêmes processus qui sont à l'œuvre, y compris pour les mettre en lumière et faire comprendre les effets que ça produit, qui sont souvent des effets négatifs, et évidemment d'identifier les spécificités de chacune des situations, parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'aucune situation est exactement la même qu'une autre. C'est justement cette diversité des situations qu'il faut qu'on réussisse à organiser, à prendre en compte, et pour l'instant on y arrive assez mal.
Dans votre séjour, vous allez rencontrer un certain nombre d'acteurs. On sait que vous allez vous déplacer aussi sur la Grande Terre, sur les îles. Vous allez mettre l'accent sur quoi durant votre séjour ?
Alors moi, ce que je viens surtout faire ici, c'est observer, écouter, apprendre des gens, comment ils vivent ce qu'ils vivent, comment ils vivent leur rapport aux langues, quelles idées ils ont trouvées. J'ai déjà été rencontré un conteur qui a trouvé des objets de médiation pour amener les jeunes vers une culture kanak et vers éventuellement ensuite, dans un deuxième temps, vers la réappropriation de langues. Donc moi, voilà, je viens voir les bonnes idées qu'ont les gens d'ici et, comme je vous le disais, observer la situation pour essayer de mieux la connaître, de mieux la comprendre, pour élargir mon champ de comparaison.
Avec ici énormément de communautés aussi, donc énormément d'accents, énormément de langues différentes.
Oui, ça aussi, évidemment, ça m'intéresse beaucoup parce que partout où le français a été diffusé, les gens se sont mis à le parler à leur façon, avec toutes sortes de bonnes raisons de le faire. Et évidemment, mieux on connaît la diversité de la langue française, meilleure vision on a de sa globalité. On comprend mieux ce qu'est le français dans sa globalité.
Peut-être pour terminer cet entretien, évoquer cette conférence publique que vous donnerez demain à 17h30. Quel est le thème et qu'est-ce que vous allez y défendre ?
Alors le thème, c'est d'expliquer aux gens comment, par un processus de recherche, on identifie qu'il y a des tensions et des conflits autour des usages des langues, alors qu'a priori, les langues sont faites pour qu'on se rencontre et devraient pouvoir être intégrées avec une certaine harmonie sociale, on va dire, alors d'observer qu'il y a des problèmes et puis de montrer aux gens comment j'ai identifié les paramètres qui posent des problèmes et comment à partir de là, j'ai pu, avec d'autres, hein, évidemment, la recherche c'est toujours collectif, former ce qu'on appelle nous un concept, c'est-à-dire une notion, une catégorie que j'ai appelée glottophobie, discrimination à motif linguistique, pour rendre compte de ces phénomènes. Et une fois qu'on a identifié les phénomènes, vérifier par exemple dans le système juridique ce qui fait que ce phénomène peut être condamnable et ce qu'on peut faire pour comprendre pourquoi il se produit. Et une fois qu'on a compris pourquoi il se produit, comment on peut faire en sorte de l'évacuer petit à petit.
Vous travaillez donc à changer les mentalités ?
Il faut changer les mentalités, il faut changer les croyances que les gens ont sur les langues, qui sont largement fausses. Ce n'est pas de leur faute, elles circulent. Il y a un vrai déficit d'éducation linguistique. Peut-être aussi, quelque part, changer un peu le projet de société, c'est-à-dire imaginer une société plus inclusive, plus égalitaire, où tout le monde a sa place, quelle que soit la langue qu'on parle ou la façon dont on parle. Parce que plus on fait de place aux gens, mieux on les inclut. Plus on les stigmatise, plus on leur donne envie, finalement, de partir.
Rendez-vous donc demain à 17h30 à l'UNC. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Blanchet.
Je vous en prie.
Une interview à retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc. Dans un instant, la suite de votre 6-8. On se retrouve juste après la pub au 25 46 46 pour la deuxième partie de Vous avez un avis.